Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe 1.
10h-11h, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
Fatia Agag-Boujala, vous êtes professeure d'histoire-géographie à Toulouse, vous l'avez été aussi à Marseille. Vous avez publié aux éditions du Cerf un ouvrage très personnel, au titre évocateur et aux résonances multiples. Les nostalgériades, c'est la contraction de trois mots, nostalgie, Algérie, jérémiade, c'est un mot clé de votre livre qu'il faut lire, parce qu'il est bien écrit, parce que, madame la professeure, vous ne mâchez pas vos mots, et vous faites comprendre que vos élèves, ceux qui sont issus de l'immigration, ont du mal à admettre le fait qu'ils soient français. Alors, je vais vous poser, si vous voulez, une première question qui est, me semble-t-il, importante et que vous traitez dans le livre. C'est un livre de fond. Madame la professeure, est-ce que les générations actuelles issues de l'immigration éprouvent-elles vraiment la nostalgie du pays d'origine? Est-ce qu'il s'agit d'une vision idéalisée d'une nation fantasmée ou d'une véritable aspiration à retrouver les valeurs, le mode de vie, la pratique religieuse dominante sur l'autre rive de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Algérie?
Mais il faut dire que pour eux, ils ont un lien familial puisque la plupart de nos oncles, tantes, cousins y sont encore. Donc bien sûr, il y a cette envie de revoir la famille. Mais sinon, c'est une vision largement fantasmée. C'est-à-dire que j'ai dû expliquer à une élève qu'en Algérie, il faisait froid à l'hiver. Elle pensait que c'était le pays de l'éternel été. Un élève m'avait expliqué en cours qu'en Algérie, l'eau et l'électricité étaient gratuites. Voilà, j'avais appelé ma mère en direct en cours et elle lui avait dit que c'était complètement faux. Et j'en avais parlé à mon frère qui disait « Mais c'est normal, quand j'y vais, je dis à mes enfants, venez, on va au resto, ça coûte rien. Venez, je vous achète une paire de baskets, ça coûte rien. » Et les enfants ne retiennent que ça. Donc ils pensent qu'en Algérie, c'est gratuit. Ils ne comprennent pas qu'en fait, ils vivent bien comme des touristes grâce à la différence de niveau de vie entre la France et l'Algérie. Donc c'est une vision fantasmée de touristes de masse, voilà, qui vont plusieurs fois grâce aux avions low cost, mais qui n'y restent pas longtemps. Et même ma mère, qui a vécu là-bas jusqu'à ses 40 ans, au bout de 2 mois, elle a la nostalgie, cette fois-ci, de la France.
Est-ce qu'on peut dire que la nostalgérie, votre livre, signe l'échec de la politique française d'intégration? Désigne-t-elle notre incapacité à faire aimer la France, à créer un sentiment d'appartenance commun à la communauté nationale, à transmettre notre propre histoire avec lucidité, mais surtout fierté?
Ça manque, l'élément de fierté, parce qu'on est lucide. Quand vous écoutez certains militants des courants décolonialistes, par exemple, qui vous disent « oui, on ne parle pas assez de l'esclavage, on en parle en quatrième. Oui, on ne parle pas assez du fait religieux. 75% des programmes de sixième et de cinquième sont basés sur le fait religieux. » On transmet, mais on s'est interdit de transmettre, non pas même pas la fierté, mais simplement le goût, l'amour, voilà. L'amour du pays, cette filiation, ce mot désuet qui est l'allégeance, voilà. Et ça, on s'est interdit de le faire avec la laïcité, on s'est interdit de transmettre le culte de l'État. Je suis jacobine, donc je vais utiliser cette expression-là. Et par contre, on a laissé faire pour les religions. Donc tous les drapeaux sont le bienvenu dans les écoles, palestiniens, algériens, marocains, mais surtout pas le drapeau français. Et quand la loi a été votée l'année dernière, il y a 2 ans, pour qu'il y ait un drapeau français, et la Marseillaise, dans chaque classe, il fallait voir les moqueries de mes collègues, des profs en général, et ça s'est réduit à une feuille A4, avec la Marseillaise imprimée, le drapeau français et le drapeau européen dessiné dessus, tout petit. Voilà. On est honteux. Comment vous pouvez permettre aux gens de s'enraciner dans une terre meuble, pas solide, où ils ne risquent de s'enliser? Et par contre, on célébrera leur diversité, on célébrera leurs origines et on leur met face à eux un miroir en disant « voilà, vous n'êtes que ça, immigrés ».
Je rappelle que vous êtes né en France, vous êtes issu d'une famille de 8 enfants et que la moitié est née en Algérie et l'autre moitié en France, dont vous. Et vous faites partie du corps enseignant français, vous avez été formé en France. Et ce qui me frappe dans ce que vous venez de décrire, c'est les moqueries du corps enseignant français.
Ah mais complètement. Être souverainiste, il y a en plus un déficit de politisation. Les enseignants ne sont plus politisés. Paresseusement, ils se disent de gauche parce qu'ils pensent que la gauche défend leur intérêt corporatiste. Mais il n'y a plus cette politisation comme il y avait avant.
Vous êtes
avant.
De gauche, vous ?
Je suis de gauche, mais de la gauche chevènementiste, donc celle qui assume d'aimer la France autant que les idées de gauche. Et je dois tout à l'école publique. Je dois tout à l'école publique. Je dois donc tout à la République. Et je dois aussi beaucoup à certains individus, certains enseignants. Et là, ce que j'observe, c'est que pour beaucoup d'enseignants, c'est honteux et c'est même criminel de parler de la France, d'en dire du bien, d'essayer de transmettre le goût du pays. Et c'est même pire. Vous avez certains établissements où on est dans le séparatisme. Il faut oser ce terme-là, le séparatisme. C'est-à-dire, ce sont des machines à fabriquer du ressentiment. Vous ajoutez ça à la bêtise gauchiste où ils expliquent aux gamins les riches sont méchants. La gauche, c'est la lutte contre les inégalités et tout va bien. Et puis la droite, c'est les méchants égoïstes. Donc, vous voyez, il y a un abaissement du niveau, il y a un gauchisme militant. Deux d'enseignants qui n'oublient pas de devenir propriétaires et d'investir pour assurer leurs vieux jours. Et c'est ça que je ne supporte pas, parce que moi, je ne suis pas fille de prof. Je n'ai pas cette passion du corporatisme. Moi, je suis fille de femme de ménage qui a dû se débrouiller seule quand mon père nous a abandonnés, nous, ses 8 enfants.
Quel jugement vous portez sur les vecteurs traditionnels de l'intégration, c'est-à-dire l'école, le service national, la politique culturelle héritée d'André Malraux, qui ont longtemps porté la volonté de créer des citoyens libres en France, des citoyens émancipés, en reléguant au second plan l'origine ethnique. Est-ce que cette vision universaliste a vécu ? Est-ce qu'elle est condamnée par les évolutions en cours ?
Écoutez, elle a fonctionné et elle peut fonctionner. J'aime à penser que je ne suis pas la personne la plus extraordinaire du monde et je pense que je suis représentative de pas mal de gens, en tout cas ceux de ma génération. Le gros problème a été la ghettoisation ethnique, qui a été encouragée d'ailleurs par des sociologues qui trouvaient que la dépense sociale serait plus efficace si on regroupait les bénéficiaires de cette aide, de toutes ces aides. Et la ghettoisation ethnique s'est doublée longtemps après, d'une ghettoisation culturelle et religieuse. Voilà. Et ça a servi de coupe-circuit, mais complètement de coupe-circuit, parce que le communautarisme est alors apparu. Et donc dans les MJC, bah c'était les garçons qui avaient droit. Dès qu'un garçon participait à une activité, les filles devaient s'en retirer. Donc on n'a pas vu, nous, de politique culturelle. Quand j'étais à Marseille, il y avait un instituteur en détachement pour mener des activités culturelles. Il ne prévoyait des activités que tournées vers l'immigration. Mais non, on n'est pas là pour mettre un miroir devant les élèves, on doit leur mettre une longue vue, on doit les emmener à l'opéra, on doit leur transmettre des codes, on ne doit pas leur parler de slam, de rap, de ce qu'ils vivent déjà au quotidien dans leur ghetto. Et donc on a renforcé la ghettoisation de personnes déjà ghettoisées.
Est-ce que vous trouvez que l'éducation nationale a trop cédé sur les principes de l'universalisme républicain ? Est-ce que ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour les faire revivre et comment s'y prendre ? Parce que vous avez quand même entamé une véritable pédagogie de lutte contre tout ça. J'ai lu votre livre, vous en parlez beaucoup, énormément. Vous mêlez d'ailleurs beaucoup d'anecdotes aussi de ce que vous avez vécu en famille, en dehors de l'école. Lorsque vous racontez qu'un certain nombre d'entre vous reviennent du pays ou vont au pays l'été et reviennent et finalement sont assez déçus.
Il faut voir que cela dépend de votre niveau de richesse, c'est comme tout. Hein. Moi, j'en reste à une lecture de classe sociale. Si vous retournez au pays avec un bon salaire, vous n'y retournez pas comme un migrant quelconque. Voilà, vous avez la maison. C'est épuisant, et je suis extrêmement pessimiste, c'est épuisant parce que maintenant, nous avons face à nous des élèves qui sont allés à la mosquée très régulièrement, à qui les parents n'ont pas transmis ou n'ont même pas verbalisé le fait des chances qu'on avait d'être en France. Des enfants qui ont l'impression de subir. Et souvent, moi, je leur pose une question. Levez la main, ceux d'entre vous qui ont une maison en Algérie. Les deux tiers lèvent toujours la main. Donc je leur dis, voilà, vos parents ont arbitré. Ils ont fait le choix d'avoir un grand appartement dans un quartier ghettoisé comme le Mirail. Ils auraient pu avoir plus petit.
Le Mirail, c'est à Toulouse.
Voilà,
à
Toulouse, un des quartiers difficiles, reconquête de la ville. Ils auraient pu faire le choix d'habiter plus petit pour plus cher. Mais c'est comme dans ma famille, quand je me suis rendu compte qu'en fait, on avait été plus pauvres qu'on aurait dû l'être. Parce qu'en fait, même les aides sociales, les salaires, mais même les aides sociales, allaient en Algérie pour construire une maison. Donc les parents ont fait le choix pour le prix d'un appartement en France, ils pouvaient avoir une immense villa en Algérie, c'est ce choix-là. Mais si les gamins, on leur dit « Regardez comment on vous traite, on vous parque dans des quartiers, regardez les terrains, regardez les services publics, et on les empêche d'être mobiles. » À Toulouse, le conseil départemental a mené une politique extraordinaire en fermant deux collèges ghettos, ghettos ethniques et sociaux. Bah, vous avez le syndicat Sud qui a hurlé à l'apartheid social. Vous vous rendez compte, faire prendre le bus à ces gamins pour aller dans les meilleurs collèges de Toulouse. Et moi, je me suis fâchée avec eux parce que je leur ai posé une question. Est-ce que vous y mettriez vos gosses dans ces collèges? Ben non, ben ce qui n'est pas bon pour vos gosses n'est pas bon pour les autres enfants. Il faut les rendre mobiles. Donc je suis extrêmement pessimiste et c'est épuisant parce qu'il faut se battre maintenant contre une immense bigoterie. Vous avez des gamins qui pensent que c'est Dieu qui décide de tout. Des bonnes notes, des mauvaises notes, des maladies, des décès. Et ça les déresponsabilise complètement. Et dès 4, 5, 6 ans, j'ai pu voir ça chez mes neveux et nièces, ils vous parlent du paradis. Et cette vie-là, c'est une vie où il faut faire ses preuves. Kamel Daoud parlait d'une tente, comme les Bédouins. L'écrivain, c'est du temporaire.
L'écrivain algérien, voilà. Qui est chroniqueur à l'hebdomadaire Le Point aussi.
Tout à fait. Et qui disait,
qui
voilà comment ils peuvent se projeter.
Un Français exceptionnel.
Un Français exceptionnel, de très haute qualité, et qui est extrêmement courageux dans ce qu'il dit, et qui brise justement à la fois cette nostalgie dont les islamistes et les indigénistes, les entrepreneurs identitaires profitent en France, mais dont l'État algérien se sert aussi. Il est pourvoyeur de devises et ça permet d'alimenter la tension avec, à propos de la guerre d'Algérie, qui ne concerne pas mes élèves, ce que je me dépêche de leur dire, qui ne me concerne même pas moi, fille d'immigré, qui concerne ma mère. Voilà. Et je ne vais pas m'approprier sa détresse. Moi, je suis bien contente d'être née en France. Et le gouvernement algérien en a fait une variable de sa politique intérieure. Voilà.
On va en parler. Fatia Agag Boudjala, nous allons nous arrêter. Vous savez que de temps en temps, nous vous accordons une petite respiration pour reprendre notre souffle. À tout de suite.
À tout de suite.
Les grands entretiens sur Europe 1.
Charles Villeneuve.
Fatia Agag Boudjala, qui est professeur d'histoire-géographie à Toulouse, qu'il a été à Marseille, qui est une prof issue de l'immigration et qui a écrit un livre remarquable que je vous encourage à lire, « Les Nostalgériades ». Alors, Fatia, il en est de même, par rapport à tout ce que vous venez de dire, de la politique de la ville qui, créée dans les années 90, avait l'ambition de démanteler les ghettos urbains et de progresser vers la mixité sociale à coup de programmes ambitieux financés par des fonds publics. Est-ce qu'on peut considérer, en vous écoutant, en lisant votre livre, que c'est un pari perdu ?
Ça a été une gabegie énorme et il suffit d'écouter Malek Bouti qui a très très bien expliqué les choses. Si vous regardez le rapport qu'avait soumis Jean-Louis Borloo à Macron, qu'il avait humilié en disant qu'un vieil homme blanc n'avait pas finalement grand-chose à dire, il avait parlé d'instaurer une cour d'équité territoriale. Et je m'étais dit, chiche, cette cour d'équité territoriale, qu'elle sanctionne les villes qui n'affichent pas 20% de logements sociaux et qu'elle sanctionne les villes qui affichent plus de 80% de logements sociaux ou plus de 50 ou plus de 40. Parce que la couronne rouge, la couronne francilienne, ils ont voulu un maximum de logements sociaux. Les ghettos les ont arrangés puisque c'était des populations captives qui ne votaient pas. Et ainsi, avec 1000 personnes un peu militantes, ces gens ont assuré leur réélection. Donc cette politique de la ville, ça a consisté à détruire des ensembles, mais à reconstituer les ghettos ailleurs. La mixité, c'est beaucoup plus fin. La mixité, pour être profitable à tous, surtout dans une école, c'est pas 50% de pauvres ou de gens de couleur et 50% de blancs, c'est 25-75. Parce qu'il s'agit de tirer vers le haut et qu'il y ait de l'émulation. Et il va falloir dire qu'en France, et ça s'adresse à tout le monde, hein, le loyer, c'est pas à l'État forcément de l'assurer. Quand on travaille, il faut toujours garder de quoi payer son loyer. J'ai été extrêmement étonnée par un article du Figaro qui disait que pendant les confinements et depuis 2 ans, le volume d'argent envoyé au pays par Western Union, tout ça, n'avait pas diminué. C'est-à-dire que des gens ont gagné moins d'argent et pourtant, ils ont envoyé toujours autant d'argent au pays. Ben, ça veut dire qu'ils ont fait des choix sur autre chose et souvent aux dépens de leurs enfants, souvent aux dépens du paiement du loyer. Donc oui, il faut responsabiliser aussi les gens et puis il faut reconquérir cette mixité sociale, ethnique aussi, il faut oser le dire, ethnique. On est quand même dans une situation où un journaliste issu de Boulevard Voltaire a écrit dans un article de Causeur que puisque certains territoires étaient perdus pour la République, il fallait accepter que la charia s'y applique. Et c'est ça le multiculturalisme. C'est les communautés les unes à côté des autres. Et pour les écoles, c'est pareil. On nous encourage à faire entrer les quartiers dans l'école. Non, moi je veux une barrière étanche. Quand, avant l'assassinat de Samuel Paty, la principale a reçu le père d'élève, accompagné d'un imam.
Le professeur décapité.
Voilà, le professeur assassiné et décapité. Elle a reçu un imam qui n'était même pas du quartier. Un imam ne devrait jamais être l'interlocuteur d'un chef d'établissement. Non. Et c'est pour ça qu'il va falloir fermer. Il y a des écoles qu'il faut fermer parce que ce sont des poubelles. La mixité, ça doit se piloter. Elle doit être fine. Voilà. Et ça doit se piloter et assumer que des gens prennent le bus pour aller plus loin, pour casser ces logiques communautaires.
Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous a entendu, vous a écouté, vous a lu? Est-ce que vous avez dialogué avec lui?
Alors, j'ai été reçue avec quelques autres des personnes qu'il estimait proches de ses idées au ministère pour une soirée de mobilisation. Et c'est aussi à travers Elisabeth Badinter, l'amitié que nous avons tous deux pour Elisabeth Badinter. Je vais vous dire quelque chose très sincèrement et ça me peine énormément de vous le dire. Le ministre Blanquer, il est impeccable et solide sur toutes les questions de laïcité, mixité. Il est lucide et courageux. Il a tout son ministère contre lui. Il a tout son ministère contre lui. Il a les hauts fonctionnaires qui sont dans la vision soi-disant libérale de la laïcité. C'est illibéral, la laïcité. C'est l'État, justement, qui contentionne, qui met en place un système de contention de la chose religieuse, de la chose politique ou de la chose philosophique dans certains endroits à certains moments. Eh bien, il a les hauts fonctionnaires contre lui, il a les rectorats contre lui qui ont fait le choix de la co-gestion et de l'achat de la paix sociale. Et résultat, quand c'est à Paris, il peut faire le Conseil des sages, mais le temps que ça descende localement, il ne se passe pas grand-chose, très honnêtement. Voilà.
Mais ces hauts fonctionnaires, vous les avez rencontrés? Vous avez pu...
Moi, j'ai pu rencontrer ceux qui soutenaient Jean-Michel Blanquer, mais qui n'étaient pas vraiment nombreux. Un gros problème qu'on a dans l'éducation nationale, Macron voulait mettre en place un système de spoil system à l'américaine, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires dégagent en même temps que les politiques élus. Maintenant, ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui sont là depuis 20 ans, c'est eux qui ont ravagé l'éducation, l'école publique. Ils l'ont ravagé. De gauche ou de droite, ça ne change rien. François Fillon, c'est lui qui a introduit les compétences qui permettent de tricher sur le niveau des élèves. Ça a été renforcé par Najat Vallaud-Belkacem. Il n'y a jamais eu d'alternance politique au ministère de l'Éducation nationale. Et là, qu'est-ce que vous avez? 95% de réussite au bac, merveilleux. 75% d'échecs en licence. Mais comment ça se passe? Comment ça se fait? Et là, on est en train de renforcer ça, c'est-à-dire on casse le thermomètre au lieu de donner les moyens et surtout d'assumer le côté sélectif, mais surtout d'assumer la part de travail.
Ce que vous décrivez là, c'est une caste inchangeable, finalement.
Bah écoutez, Macron veut changer l'ENA, mais s'il ne change pas ce système de hauts fonctionnaires tout puissants qui restent en place à travers les ministres et qui appliquent, François Fillon avait expliqué qu'une fois, il avait été obligé de prendre un décret ministériel pour obliger un de ses hauts fonctionnaires à lui obéir. Il avait refusé deux fois. Voilà où on en est.
Est-ce que vous avez beaucoup de professeurs qui tiennent le même langage que vous, notamment issus de l'immigration? Mais vous avez été élevé, vous avez grandi, vous avez été éduqué en France. Donc,
C'est exactement ça. J'ai été éduqué en France avec des valeurs à la fois européennes et puis à la fois orientales et musulmanes, ceux de mes parents. Écoutez, cette année, j'ai subi une campagne de harcèlement initié par des gens de la France insoumise dans mon collège. Vraiment quelque chose d'extraordinairement violent. Et on m'a incité, le rectorat, pour mon bien, à prendre un congé de formation, comme ils ne peuvent pas m'attaquer sur ma relation avec les élèves, qui est parfaite, parce que je peux vous dire que ça fonctionne. L'autorité, ça fonctionne. Tout s'apprend.
Là, je veux bien vous croire.
Tout s'apprend si ça s'enseigne. Et j'arrive toujours à de bons résultats. Pas de bourrage de crâne, mais à donner des éléments de réflexion. Donc ils ne pouvaient pas m'avoir sur la relation aux élèves, ni sur la relation aux parents. Donc,
c'est
ils sont
allés
sur autre chose.
Le rectorat.
Alors le rectorat m'apporte son soutien grâce au ministre Blanquer. Mais en fait, je n'ai eu... mon salut n'est dû qu'au ministre Blanquer. Donc il est à obsolescence programmée dès qu'il ne sera plus au pouvoir. Il y a des rectorats qui font le choix de la co-gestion avec les syndicats les plus extrémistes. Parce que les syndicats les plus extrémistes se contentent de hochets. Et l'un des drames de l'éducation nationale, par exemple, pour moi, c'est les décharges syndicales. Vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures de décharge syndicale. L'État paye pour que vous organisiez le grand soir. Et vous ne défendez pas les droits des enseignants, vous défendez la révolution. Et ces gens-là, ben, je peux vous dire que pour eux, l'enseignement, en fait, c'est un à côté. Et ce n'est pas ma conception du service public. Moi, je suis fonctionnaire d'État, ça a du sens pour moi. J'ai un frère qui travaille au ministère de la Justice. Nous sommes deux fonctionnaires d'État. Ça a du sens. Mais par rapport à ces gens-là gauchistes, ils sont dans le misérabilisme avec les élèves. Et ça, c'est insupportable. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je veux le meilleur pour mes élèves. Ce que je voudrais pour mes enfants, je le donnerai à mes élèves. Je vois des profs sur les réseaux sociaux se vanter de mettre des textes en slam, se moquer de Molière. Mais eux, ils l'apporteront, le capital culturel, à leurs enfants. Et en fait, ces bourgeois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont organisé, ils sont complices de ces hauts fonctionnaires parce qu'en fait, ils éliminent la concurrence pour leurs enfants. Alors ceux des quartiers, ils vont faire du slam et leurs enfants, ils feront du théâtre, ils auront le capital culturel et ils réussiront les concours.
Et vous leur avez raconté, quand vous avez eu ce dialogue avec les hauts fonctionnaires inchangeables, finalement, qui sont là à vie, hein, le ministre part, mais eux restent, quoi, en gros.
Tout à fait.
Ils changent pas d'opinion profonde, ils changent pas de politique.
Et c'est eux les pédagogistes, c'est eux qui ont mis en place ce système de compétences, ce système de curriculaire. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant en primaire, il n'y a plus de par cœur, ça n'existe plus. Donc on a des élèves qu'on récupère nous en sixième qui sont incapables de mémoriser une date. Des instituteurs étaient tout fiers de me dire, mais c'est fantastique parce que en fait, si on n'a pas fait quelque chose, ils le verront trois ans après. C'est pas vrai, ils ne le reverront plus.
Mais rassurez-moi, on apprend toujours les fables de La Fontaine.
Écoutez, c'est de la violence sociale, la mémorisation. Et j'ai même une institutrice qui me disait « Mais ça ne sert à rien d'apprendre à décliner un verbe « je chante, tu chantes, ils chantent, nous chantons, vous chantez ». Parce qu'en fait, ils utilisent que « je chante » et « ils chantent ». Donc, elle se vantait d'en apprendre que la première personne du singulier, du pluriel. Vous voyez, c'est l'algorithme Google. Voilà, cet abaissement. Et il y a une école où c'est dramatique à Toulouse, l'école Buffon, où les parents m'avaient fait appel à moi pour faire une lettre ouverte, ils étaient désespérés. Il y avait un instit qui avait quitté sa classe pour aller faire des courses. C'était des instits qui disaient « Oh, de toute façon, les parents, c'est des ramollis du cerveau, c'est super. » À partir de mars, les gamins passaient toute la journée en cours de récréation. Et les gamins revenaient en disant « On ne fait rien à l'école, on dessine. » Ben voilà, vous avez aussi beaucoup d'enseignants qui restent dans ces écoles-là pour se montrer en disant « Regardez comme je suis courageux et comme j'interviens dans les publics difficiles. » Mais dans les faits, c'est surtout que c'est moins de travail. Ça, il va falloir le dire. Je pense aussi à de merveilleux enseignants qui se démènent, mais ceux-là ne sont pas reconnus par l'éducation nationale. Il n'y a aucune reconnaissance. Vous pouvez ne rien faire, être toxique ou être un excellent prof. Il n'y a aucune différence dans votre avancement. Et ça, c'est extrêmement démoralisant.
On va se quitter une deuxième fois, mais de manière assez brève. Fatia Agag Boudjala, professeure d'histoire-géographie à Toulouse.
Les grands entretiens sur Europe 1.
Charles Villeneuve.
Fatia Agag Boudjala, nous allons maintenant, si vous voulez, attaquer une autre partie de votre livre. Les nostalgériades, dont je rappelle que c'est une contraction de plusieurs mots, nostalgie, Algérie, jérémiade. Je l'ai appris presque par cœur. On observe aujourd'hui en France une crispation générale de la société française sur les questions identitaires. D'un côté, il y a un refus croissant de l'immigration et une intolérance de plus en plus grande devant l'islam, et de l'autre, un repli communautaire et une volonté d'affirmer une différence. Est-ce que vous le ressentez, ce différent? Vous le ressentez comme ça?
Ah mais complètement. Depuis 17 ans que j'enseigne, je vois dans l'attitude des élèves. Avant, la chose religieuse n'était pas si importante que ça. Pourtant, j'étais dans un établissement extrêmement difficile à Marseille, dans un arrondissement où la cocaïne était le trafic principal. Maintenant, oui, il y a une immense bigoterie parce que les gens de ma génération qui avaient de l'argent et qui avaient plus d'éducation que nos parents, envoyaient leurs gosses à la mosquée quotidiennement et ils sont intoxiqués de religion. C'est à tout bout de champ. Et j'en suis même venu à un point que cette année, un élève, j'étais persuadée qu'il arrivait d'Algérie depuis quelques jours, en fait, ou quelques semaines. Et en fait, il était né en France. Mais comme il n'avait que des locutions arabes, et qui s'exprimait très mal, je pensais simplement qu'il venait de l'étranger. Il y a une régression et ces enfants-là, qui auraient dû devenir médecins, magistrats, ils vivront moins bien que nous parce que vraiment, cette intoxication de religion sape toute ambition scolaire et pose un vrai problème. C'est-à-dire, on demandera toujours « est-ce que je pourrais porter mon voile ?» au lieu de se dire « est-ce que je pourrais faire ce boulot plus tard ?» Donc oui, il y a un vrai changement. Puis il faut voir dans les patronymes. Je suis aussi juge assesseur au tribunal pour enfants à Toulouse et donc on a des jeunes. Et il y en avait un qui était jugé pour avoir porté un coup de couteau à un autre jeune. Son prénom, c'était Saïf el-Islam. Alors peut-être que vous connaissez oui. Saïf el-Islam. Le glaive de l'islam. Alors je disais à la juge, ben voilà.
C'était le prénom d'ailleurs du fils du colonel Kadhafi.
Tout à fait. Et je me disais, ben voyez la dimension performative. Quelle est l'idée de donner à son fils un vocable, un nom aussi guerrier, aussi violent? Le glaive de l'islam. Et donc, on a vu des prénoms qui n'existaient pas à mon époque. Des prénoms Abderrahman, voilà. Et résultat, il n'y a plus cette... tout comme il y a moins de mixité, j'ai pu voir chez les jeunes de quartier, beaucoup sont allés chercher des épouses en Algérie ou au Maroc. Ce qui fait que les gamins de maintenant ont un parent encore immigré. C'est un phénomène d'immigration à perpétuité. Pourquoi ? Donc il y a le rapprochement de conjoints qui se fait, mais pourquoi aller chercher là-bas une femme ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que celle d'ici ? Bah parce que c'est cette obsession de la pureté, de la propriété, et bref, la perpétuation de ce système complètement patriarcal qu'il faut critiquer quand il est le fait de blanc, mais par contre, qu'il faut laisser faire ou encourager quand il est le fait de personnes non blanches, parce que vous comprenez, c'est culturel, c'est notre identité.
Mais est-ce que Fatia, pas seulement dans le corps enseignant, mais aussi dans le corps enseignant, est-ce qu'autour de vous, dans la communauté dans laquelle vous vivez, qui est la communauté de Toulouse, est-ce que cette montée des tensions, on peut y remédier ? Faut-il abdiquer, finalement, et laisser faire, laisser filer, ou faut-il combattre et essayer, de toute façon, de rappeler que nous sommes en République et que ce qui domine, c'est la loi de la République ?
Bah, écoutez, les identitaires comme les islamistes, eux, veulent qu'on baisse les bras. Et moi, je ne crains absolument pas une guerre civile en France, qui est le rêve de Zemmour. Moi, je crains une indifférence, c'est-à-dire le multiculturalisme. Laissez faire, tant que ça ne nous concerne pas. Vous savez, c'est « not in my backyard », tant que ce n'est pas dans mon jardin. Voilà, le principe de sinistralité. Tant que ça ne me gêne pas, ça ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est qu'on est face à une idéologie qui veut conquérir.
Mais ce n'est pas la France. Hein.
Voilà.
Ce n'est pas la France.
Ce n'est pas la France et ce n'est surtout pas la République. C'est surtout pas ce système éminemment politique qui m'a permis, moi, de me sentir aussi française que Michelet. Voilà. Et qui ne me fait pas oublier les périodes sombres, mais qui me fait tout assumer pour me rendre responsable et me rendre légataire d'une histoire. Et j'ai mon allégeance, j'ai pas honte de dire mon allégeance. Il faut se battre. La France, elle est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée par le soft power américain. Et j'ai pu voir ça parce que j'ai été invité à participer à une conférence pour l'ambassade américaine. Alors là, erreur de casting en faisant appel à moi. Les autres intervenants, qui étaient des institutionnels, il y avait même un inspecteur de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, la France n'accepte pas la diversité. Oui, la France, la laïcité, c'est agressif. Voilà ce qu'a dit un inspecteur devant des intervenants américains.
Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la woke, la cancel culture.
La cancel culture et surtout le soft power américain qui veut casser la France et l'État-nation. Et vous avez le soft power islamiste qui a aussi la France comme ennemi parce qu'on est un pays unique dans ce modèle.
On se sert même du football, on en parlera tout à l'heure.
On se sert du football, on arrose d'argent absolument. Vous avez Al Jazeera qui porte la parole islamiste, homophobe, misogyne, sexiste, mais qui a créé un AJ+, un petit média qui célèbre les diversités. Non mais vous voyez l'incohérence. La République, c'est notre bien le plus précieux. Et c'est pour ça que j'avais proposé, moi, par exemple, la laïcité, qui n'est pas une fin en soi, hein, qui est un modus vivendi, en fait, de la République. Pourquoi ne pas se battre et la proposer pour qu'elle soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? Est-ce qu'elle n'est pas aussi importante que la baguette ?
Alors, si. Moi, je puisse quand même... un espoir à partir de faits terribles qui se sont produits en France. La société française, nous le savons tous, a été ébranlée par les tentatives séparatistes, la montée d'un islamisme radical violent. Tout à l'heure, vous avez parlé de la décapitation du professeur Samuel Paty, mais aussi les attentats, Magnanville, les Champs-Élysées, tout ce qu'on connaît. Et pourtant, je trouve que globalement, le vivre ensemble a tenu.
Et je vais même vous dire une chose, les Français sont formidables. La France est formidable. S'il y a un peuple sur Terre qui incarne la résilience, c'est bien la France. Presque 300 personnes assassinées par des islamistes en France. Et les islamistes n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un dingo qui aille faire un carton dans une mosquée. Mais le carton, il s'est fait en Nouvelle-Zélande, pays de multiculturalistes. Il y a des assassinats au Canada, en Angleterre, n'en parlons pas. Donc il faut arrêter d'accuser la France. La France est un pays formidable. Et les Français se comportent de manière merveilleuse. J'ai peur qu'ils en aient marre, qu'ils soient lassés, qu'au bout d'un moment, ils laissent faire. Et ce laisser faire s'incarne même en une politique par EE élevé. Europe Écologie, Les Verts, ne fait qu'investir des candidats islamistes dans les quartiers. Parce qu'ils savent qu'ils sont des bourgeois qui n'auraient rien à dire aux gens des quartiers. Ils les livrent aux quartiers. Donc ça va être Fatima Ouassak à Bagnolet, diplômée de Sciences Po, qui a un super boulot de cadre et qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a créé le Front des Mères et qui dit que l'école publique est raciste et fabrique de l'oppression pour les enfants arabes et noirs. Voilà ce qu'on la laisse dire.
Vous croyez que sa voix porte, vraiment ?
Elle est invitée sur France Culture, elle est invitée sur Libération, elle vient de recevoir un prix par le magazine féministe Cosette. Il ne faut pas sous-estimer, parce qu'il y a quelque chose que moi j'avais sous-estimé. Je faisais très attention à l'islamisation des quartiers. Il y a une islamisation qu'on voit mal, c'est l'islamisation des classes moyennes et des classes supérieures. Des dentistes, des avocats qui essayent d'imposer le port du voile, des gens qui pourtant ont réussi. Et là, il y a le discours, et j'aimerais beaucoup travailler sur ce thème-là, c'est que la méritocratie républicaine, elle fonctionnait. Voilà, elle fonctionne. Et bien maintenant, on vous parle de transfuge de classe pour faire croire que quand vous réussissez, c'est pas grâce au pays, c'est pas grâce au système mis en place par la République. C'est vous qui avez gagné contre ce méchant système oppressif et raciste. Voilà comment on a transformé ça.
Il y a un fait que vous rapportez et que vous analysez qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, Les Nostalgériades aux éditions du Cerf. Vous êtes contre les sondages sur les musulmans, comme celui par exemple de l'IFOP, pour la Fondation Jean Jaurès, qui a été publié par Le Point et qui montrait que 27% des jeunes musulmans interrogés estimaient que la charia, c'est-à-dire la loi islamique, devait primer sur la loi de la République. Pourquoi ?
Ah mais ce genre de... Alors déjà, les sondages avec les régionales, on a vu ce que ça valait. Mais ce genre de sondage a une dimension performative, c'est-à-dire que les gens répondent comme un acte de foi. Donc en répondant certaines réponses outrancières, ils ont l'impression d'être meilleurs musulmans. Si vous dites aux gens, est-ce que vous êtes pour la loi islamique ? Ils vont vous dire oui, si vous dites ça aux musulmans. Si vous leur expliquez que la loi islamique consiste à couper la main d'un voleur, je peux vous dire que là, ils vont revenir en arrière. Parce que vu le nombre de gens musulmans en prison, il y en aurait des estropiés. Voilà. Et je ne supporte pas ces sondages-là parce qu'en fait, vous sommez les gens de s'identifier comme musulmans. Et si vous adressez à quelqu'un comme musulman, il vous répondra comme musulman. Moi, je m'adresse aux parents d'élèves, quand ils sont musulmans, comme parents d'élèves. Et je leur tiens le discours du travail, de l'effort, de la réussite. Ben, je peux vous dire, ça fonctionne. Et quand les parents de l'école Buffon, dont je vous ai parlé, ont fait appel à moi, ils ne m'ont pas réclamé de faire une lettre pour qu'il y ait du halal à la cantine. Ils m'ont dit pourquoi nos enfants n'ont pas le droit à un enseignement de qualité comme ceux du centre-ville. Parlons aux gens comme individus et comme citoyens plutôt que comme communauté, ce qu'est en train de faire Mélenchon là, avec sa musulmanie, les musulmans et Europe Écologie Les Verts. Voilà, on est face à un péril incroyable en France où il y a une conjonction de plusieurs forces qui veulent vraiment détruire notre modèle. Notre modèle, il est beau, il fonctionne et c'est pour ça qu'il leur est odieux. Il faut se battre pour lui.
Mais par exemple, Zidane, Jamel Debbouze, Rachida Dati et tant d'autres que je connais bien, qui sont des amis, des professeurs, comme vous, avocats, médecins, experts comptables. On a vu des enfants issus de l'immigration qui sont aujourd'hui professeurs agrégés de médecine. On les a vus venir donner leur opinion dans ce vaste débat sur la crise sanitaire qui s'est ouvert.
Oui, comme Madame Boidema, qui est de ma région, Franche-Comté, oui.
Franchement, je veux dire par là que ce ne sont pas des exemples isolés, des arbres qui cachent la forêt, ou au contraire des précurseurs, je dirais, d'une nouvelle forme d'intégration à la française, moins d'assimilation que par le passé, mais tout aussi brillante et porteuse de sens. Il y a ça aussi.
Mais quand vous dites assimilation, est-ce que ça dépend des patronymes? Voilà, ça a toujours été conflictuel. Alors, contrairement à ce qu'on dit, non, la France n'a pas été de tout temps une terre d'immigration. Elle a été envahie, c'est différent. Elle a très mal accueilli les Italiens. Il faut voir les massacres qu'il y a eu à Aigues-Mortes. Voilà. Moi, j'aime le mot intégration parce que c'est un terme politique et républicain. Moi, c'est le terme républicain pour dire créolisation. Mélenchon qui a découvert créolisation. Oui. Ce qui m'intéresse dans les exemples que vous avez donnés, c'est pas simplement la mobilité sociale. C'est aussi la mobilité géographique. Ce sont des gens qui ont eu besoin de quitter leur quartier pour se réaliser. Omar Sy, il a même dû aller à Los Angeles. Et il ose dire qu'à Los Angeles, il est plus en sécurité comme noir qu'en France. C'est parce qu'il est dans un quartier ultra riche, ultra sécurisé par des milices privées. Mais ces quartiers, ces ghettos exercent une pression tellement dure, tellement forte sur chaque personne, que si vous ne faites pas ce geste de dire eh ben, « je vais penser à moi », ça ne veut pas dire que je trahis, mais je vais penser à moi et mon avenir. Si vous ne partez pas, eh bien, vous ne pouvez pas réussir. La communauté, en fait, vous l'interdit parce que, vous voyez, dans notre culture arabe, si vous gagnez de l'argent, ben, dès que vous gagnez de l'argent, il faut acheter des trucs à votre famille, à vos amis. Ça empêche, comme disait un de mes amis économistes, l'accumulation du capital. Voilà, Jamel Debbouze, il est parti. Je ne sais pas s'il continuera à vivre à Trappes. Voilà. Et Trappes, je pense aussi que si on assumait notre autorité, ben, il faudrait mettre certaines villes sous tutelle, comme Saint-Denis, comme Trappes, pour 10 ans, pour casser les logiques clientélistes. Et puis, il faut faire disparaître l'entité départementale du conseil de Seine-Saint-Denis, et puis le casser en quatre, entre tous les départements autour, parce que c'est trop ancré. On est allé trop loin, on a trop laissé faire. Et pour la première fois, on a quelqu'un, Marlène Schiappa, que je trouve excellente à ce poste-là, contrairement à celui qu'elle occupait précédemment, qui dit, ben, partons à l'attaque. Défendons-nous si on a un soft power à exercer. On a de quoi défendre. Et arrêtez de présenter ses réussites comme le discours, la doxa libérale libertaire le fait, comme Annie Ernaux qui est toujours en train de se plaindre en disant « Mon Dieu, je viens d'un milieu. Mais Cocotte, elle était fille d'épicier, elle n'a jamais manqué de bouffe. Elle était juste vexée d'être dans une école privée où les gens étaient un peu plus chics qu'elle. » Mais elle tient ce discours de transfuge de classe pour faire comprendre qu'en fait, c'est exceptionnel. Vous avez gagné contre le système. Non, le système est fait pour que les enfants vivent mieux que les parents. Et moi, j'ai vécu de l'aide sociale. On a mangé grâce au Resto du Cœur. On s'est habillé au Secours catholique dans ma famille. Et là, je paye des impôts. Ben, c'est la roue classique, honorable, normale, qui devrait tout le temps être de mise.
Alors, dernière pause, Fatia Agag Boujala, avant de finir et d'aborder une question, là aussi, qui m'a frappé dans votre livre, sur la saga Benzema en équipe de France. On en parlera.
Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Les Nostalgériades, le livre de Fatia Agag Boujala aux éditions du Cerf. À lire surtout. Alors, Fatia, le football est un formidable miroir de nos contradictions sociales. La saga Benzema en équipe de France atteste de l'ambivalence de l'opinion à l'égard de l'immigration algérienne et aussi du joueur tiraillé entre deux attachements. Vous avez vous-même, dans un de vos interviews, parlé du complexe Benzema. Et je voudrais savoir ce que signifie cette expression et comment vous expliquez les passions politiques autour de ce footballeur très doué.
Alors, c'est un footballeur très doué qui s'est exilé en Espagne et qui, par son attitude, a incarné cette partie, les footballeurs racailles. Voilà. Je ne dis pas qu'il est une racaille, je dis qu'il a incarné cette idée-là comme Anelka.
Mais Fatia, il s'est exilé parce que c'est le jeu, évidemment, du commerce, du foot.
Du mercato, oui, par rapport au Real de Madrid.
Mais il aurait pu... qui est le premier club du monde.
Oui, tout à fait. Mais pourquoi il n'a pas été sélectionné aussi longtemps l'équipe de France? Et ce qui m'a intéressé à travers le cas Benzema, c'est ce pourquoi il va être jugé. Présomption d'innocence, bien sûr, mais ce pourquoi il va être jugé. D'avoir mis en rapport des gens du quartier d'où il était issu pour qu'ils exercent un chantage à la sextape contre Valbuena. pour une somme ridicule, c'est-à-dire pour ce qu'il gagnait lui-même en 3 jours. Pourquoi se compromettre ? Eh bien parce qu'il y a toujours une idée de trahison quand vous osez quitter votre quartier et votre communauté. Benzema, sa famille a porté plainte contre lui pour qu'il, et il a été condamné à verser 1500 euros par mois à sa grand-mère. Depuis quand les grands-parents exercent comme ça des droits sur les petits-enfants ? Mais depuis quand ? Parce que, voilà, et on ne devrait jamais demander, on ne devrait jamais avoir d'injonction à dire « prouvez-moi que vous êtes français ». Mais qu'est-ce qu'attendaient les Français ? Ils attendaient autre chose qu'un type qui a l'air de mépriser la Marseillaise, qui critique la France comme Anelka a critiqué la France. Voilà. Mais qui se disent « voilà, on est reconnu, on n'a pas attendu Benzema pour qu'il y ait des joueurs maghrébins dans l'équipe de France ». Et la plupart des gens vont vous dire ben « moi, je suis content ». C'est ça qu'on aurait voulu. C'est ça qui aurait été positif. En termes d'identité, quel est l'intérêt d'être dans ce ressentiment ? Et ça s'est joué. L'avant-dernière Coupe du Monde, ça a été une catastrophe à cause aussi de ça, de cet esprit communautaire, racaille, avec ces questions de halal. Tiens, on ne veut pas de bouteille d'alcool. En plus, c'était une bière sans alcool. Pendant les conférences de presse avec Pogba, c'est des joueurs qui s'affichent en photo à la Mecque. Mais moi, mon grand-père, quand il est allé à la Mecque, ça lui a pris 2 mois, il était à pied avec un âne. Maintenant, vous avez du fric et à 22 ans, les voilà Hedge. Ben, ça leur monte à la tête.
Pèlerin, voilà. C'est ça.
Hedge, ils ont fait le pèlerinage à la Mecque, donc ils reviennent sains. Ouais. 1 étoile, 2 étoiles. Voilà. Et donc, ce complexe Benzema, c'est cette honte, en fait, d'avoir quitté son milieu parce qu'il ne pouvait pas être lui-même dans ce milieu-là. Voilà. Parce que c'est un milieu oppressif où vous êtes constamment sous surveillance, où vous êtes constamment censé donner des gages de loyauté à la communauté. Il ne joue pas pour l'équipe d'Algérie, par exemple. Hein. Il aurait pu aussi. Hein.
Oui, il aurait pu choisir. Il a choisi finalement l'équipe
cher.
De France.
Ah ben voilà.
Et
ben.
Il a été plus qu'honorable. Il a été extrêmement performant, là, dernièrement, dans, évidemment, une élimination précoce de l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Mais je voudrais, pour terminer, vous poser une question, 2 questions politiques. On n'est pas loin des élections présidentielles et on constate que la question du rapport à la République est source, notamment à gauche, vous êtes une femme de gauche, de fractures profondes entre les tenants d'une vision traditionnelle, qui est laïque, intransigeante, et les partisans d'une créolisation de la société, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. C'est sur le sujet de l'islam et la tentation communautariste que le débat est le plus violent. L'affrontement le plus, je dirais, irréductible. Est-ce que vous en êtes étonné ? Et pour la femme de gauche que vous êtes, considérez-vous comme Manuel Valls qu'il y a 2 gauches irréconciliables ?
Alors déjà, Manuel Valls, j'ai du respect pour lui parce qu'il a été Premier ministre, mais Manuel Valls, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne peut pas être laïque et être libéral au niveau économique. Donc il y a un hiatus qu'il n'a pas réussi à résoudre. Donc pour moi, ça n'a jamais été un homme de gauche. La créolisation, c'est pas parce que Mélenchon a découvert dans Wikipédia Édouard Glissant il y a quelques mois qu'elle n'existait pas avant lui. Et on ne l'a pas attendu. Hein. On ne l'a pas attendu, que ce soit depuis Gaston de Monnerville ou la France qui était championne du monde des mariages mixtes.
Vous êtes dur là sur Wikipédia parce qu'il est assez cultivé, Jean-Luc Mélenchon.
Bah, découvrir à son âge Édouard Glissant, franchement, je ne sais pas si c'est de la grande culture et surtout en faire cet usage politique très pauvre.
Quand je dis assez cultivé, je devrais dire cultivé.
Enfin. Il est cultivé, il est extraordinairement décevant et je lui en veux d'autant plus parce que entre sa première candidature au présidentiel où il avait les drapeaux français, où il tenait ce discours républicain universaliste exigeant, disait des belles choses, c'était entraînant. Et voir ce qu'il est devenu maintenant, espérant gagner le vote des quartiers populaires avec la stratégie menée par Éric Coquerel. Et comme ce sont des bourgeois, et comme ils n'arrivent pas à tenir le discours des quartiers, et les quartiers sont capitalistes, hein, les gens des quartiers sont ultra-capitalistes, alors ils disent Palestine, 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 ils agitent des chiffons rouges, et puis vous avez un député comme Alexis Corbière qui se prend en photo un barbecue de bas d'immeuble, il ne se pose pas la question de l'absence des filles, de l'absence des femmes. Voilà. Ce sont des gens qui ont intérêt à figer les choses sur place et qui sont dans cette forme de politisation négative. On ne vote pas pour eux parce qu'ils proposent quelque chose de bien, mais par haine, par ressentiment, pour des choses négatives. Donc la créolisation, elle a toujours existé. C'est naturel. C'est naturel et ce n'est pas l'apport des jeunes. Il y a des féministes, des néo-féministes, Vous avez les indigénistes qui croient qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre. Voilà. Rien n'existait avant eux. Le féminisme n'existait pas avant eux, la criminalisation n'existait pas avant eux, la justice n'existait pas avant eux, l'antiracisme n'existait pas avant eux, et ils passent tout au tamis. Et rien ne va pour eux. Voilà. Et c'est devenu un business lucratif. Derrière tous ces agitateurs, comme vous dites, adeptes du woke, il y a des businessmen. Vous avez l'exemple de Rebecca Mselem qui a créé la société, je dirais, les Glorieuses, qui se veut néo-féministe, intersectionnelle et tout. Elle a un diplôme d'État, elle est docteur en économie, mais ça, elle ne le dit pas. Elle va minauder devant vous comme si c'était une petite fille sortie d'un conte d'Anderson. Voilà, y a du business derrière tout ça. Et ce qui me rend absolument folle, c'est qu'il crée des dégâts immenses sur des enfants des classes populaires ou des quartiers qui n'ont pas les mêmes chances que eux quand ils allaient à l'école.
Madame la professeure, pourriez-vous vous engager en politique en briguant un mandat électif?
Mon cher monsieur, je l'ai fait et j'ai été complètement battu et je l'ai fait en sachant que je ne gagnerais pas et mes élèves, ça les a beaucoup fait rire. Et le parti animaliste qui avait simplement affiché un petit chaton a fait plus de voix que moi en législative il y a 9 ans.
Mais il ne faut pas renoncer.
Mais le problème, c'est que moi, je reste dans un cadre chevènementiste. D'accord ? La gauche qui aime la France, c'était ça notre slogan. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai soutenu pour la première fois de ma vie le Parti Socialiste aux dernières élections parce que localement, il mène une bonne politique. J'adorerais être élu, mais je ne vois pas qui me donnerait accès à une élection parce que, on l'a vu dans l'Assemblée nationale, ils cherchent des moutons de panurge, hein, tout simplement.
Alors, c'est votre deuxième livre, Les Nostalgériades.
Et même le troisième.
Et c'est le troisième.
Ouais.
Bon, donc je sais qu'il y aura un quatrième.
Ah ça, je ne sais pas, parce que déjà ce livre m'a beaucoup coûté, parce que vous savez, dans ma famille, on est pudique, et la pudeur, c'est vous ne pleurez pas en public, même si vous souffrez, et vous ne racontez rien.
Donc j'ai une mauvaise information, vous n'êtes pas sur la voie d'un quatrième livre.
Je ne sais pas. Là, je vous avoue que j'ai une grande remise en question, même professionnelle, voilà, avec ce qui m'est arrivé cette année. J'aime passionnément enseigner.
Ah, mais ne quittez pas l'enseignement. Si vous ne faites pas de la politique, ne quittez pas l'enseignement. Parce que vous enseignez très bien. En tout cas, votre troisième livre,
gentil. Oui.
Les Nostalgériades, aux éditions du CERF, de Fatia Agag-Boujalat, professeure d'histoire-géographie à Toulouse, à lire.
Merci infiniment.
Je vous en prie. Dimanche prochain, même heure, entre 10h et 11h, l'invité de la direction de l'information d'Europe 1 sera le général de gendarmerie André Pétillot, qui commande un vaste territoire, la Nouvelle-Aquitaine, et avec lui, nous passerons en revue les mythes et les réalités de l'insécurité en France. Bon dimanche.